suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La violente polémique entre Charlie Hebdo et Mediapart. Manuel Valls accuse ce matin Edoui Plenel de complicité intellectuelle avec le terrorisme et aussi d'avoir lancé un appel au meurtre contre lui et contre Charlie Hebdo, suivi avec Frédéric Seyss. Angela Merkel, Emmanuel Macron à la tribune de la COP23 à Bonn pour tenter de redonner un élan au combat climatique, correspondance avec Véronique Robérotte. L'Airbus qui enregistre la plus grande commande de son histoire, 430 avions moyens courriers de la famille A320 vendu à une société américaine d'investissement. Explication d'Hakim Kasmi. Coup d'État au Zimbabwe, l'armée a pris ce matin le contrôle des rues de la capitale Harare, déclare vouloir éliminer des criminels proches du président Mugabe. Analyse avec Valérie Crova. Et puis l'avenir du service public de l'audiovisuel avec la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, qui assure n'écarter aucune piste pour sa réforme. On en parle avec Sophie Delpont et notre invitée, l'invitée de la séquence interview, Catherine Morin-Desailly, qui est sénatrice UDI de Seine-Maritime, présidente aussi de la Commission de la Culture et de la Communication au Sénat. Dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Gesbert.
Nous recevons aujourd'hui la lauréate du prix Renaudot Essai, l'écrivaine Justine Augier, pour De l'ardeur, paru chez Actes Sud. Elle y dresse le portrait. Il revient sur les combats de l'avocate syrienne Razan Zeitouneh, disparue en décembre 2013 près de Damas. C'est une figure militante, une figure des droits de l'homme en Syrie, l'ombre de l'absence et derrière elle aussi un portrait de cette Syrie en guerre. Rendez-vous à 12h55.
On vient de l'apprendre, la mort de l'anthropologue et ethnologue Françoise Héritier, directrice d'études à l'EHESS, qui avait succédé à Claude Lévi-Strauss au Collège de France et qui avait inauguré aussi la chaire d'études comparées des sociétés africaines. On est avec Caroline Brouet pour en parler. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Peut-être avant de parler de Françoise Héritier, de son combat aussi en tant que féministe, je vous propose d'entendre un extrait d'une émission que vous aviez réalisée en mois d'octobre, je crois.
Il y a quelques semaines à peine.
Avec Françoise Héritier pour donc votre émission Les Matins du Samedi.
Je vois la cause des femmes souvent comme une citadelle à la Vauban. Et puis l'attaque peut venir d'un seul côté ou de plusieurs. Et puis partir à l'assaut de ce statut de domination qui représente tellement, tellement de choses intriquées ensemble. Si vous tirez sur un fil, il en vient de milliers d'autres. Que c'est extrêmement difficile de voir à chaque fois quels sont les gains concrets. La lutte se voit. Mais les gains concrets, on peut les voir que quelques temps après, pas tout de suite. Et parfois, d'ailleurs, on ne les voit pas du tout. Par exemple, les printemps arabes, pour ne prendre qu'un exemple.
Voilà donc la voix de Françoise Héritier, c'était il y a quelques semaines dans votre émission, Caroline Brouet. On entend bien là la combattante, à la fois beaucoup de cœur et beaucoup d'intelligence dans ce combat, notamment pour les femmes. Et
c'est exactement ça, Françoise Héritier. Alors, je ne pensais pas venir trois semaines après l'avoir rencontrée, même si je l'avais trouvée assez affaiblie. Quand on était allé chez elle, elle ne se déplaçait plus du fait de sa maladie auto-immune et qu'elle portait, et qu'elle combattait d'ailleurs depuis de très très nombreuses années. Je ne pensais quand même pas venir trois semaines après dans ce studio pour parler de la mort de Françoise Héritier. 84 ans, certes, mais c'est vrai que ça faisait partie de ces personnalités qui, quand vous les rencontrez, vous changent parce qu'elle avait énormément de cœur, une immense sensible avant même d'être une très très grande chercheuse, très grande anthropologue africaniste.
Justement,
vous l'avez dit.
Justement, sur son œuvre, peut-être un petit peu.
Son œuvre, c'est avant tout le combat des femmes, mais elle a travaillé sur l'inceste, sur les rapports entre les femmes, en fait, sur le système, les systèmes d'alliances complexes. Je la revois lors des entretiens à voix nue que nous avions fait il y a une dizaine d'années maintenant, poser des petits morceaux de petits bouts de papier et même des allumettes pour expliquer les différences entre le père, de la sœur, de la mère, de la cousine, avec une très très grande acuité et alacrité d'esprit. Elle a évidemment travaillé sur la domination masculine. C'est là-dessus qu'on l'entendait à nouveau depuis quelques semaines, en expliquant d'où venait cette domination masculine qui n'était absolument pas naturelle, mais qui avait tout de culturel selon elle. Elle avait l'espoir que les choses changent. Les choses sont en train de changer, nous disait-elle. Espoir de les voir aboutir. Non, ça, elle était réaliste, mais pas au point de penser qu'elle ne verrait quand même pas les choses aboutir avant sa mort.
Caroline Brouet, merci beaucoup donc sur la mort de Françoise Héritier. Rediffusion ce soir 22h15 d'un entretien avec Frédéric Worms dans l'émission Matière à penser. Donc ce soir 22h15 sur France Culture. L'effacement du clivage, des clivages, le dépassement qu'on dit parfois maintenant incontournable du débat gauche-droite coïncide avec le surgissement de violentes polémiques politiques qui se déroulent le plus souvent hors du cadre institutionnel. Ainsi, celle qui oppose depuis plusieurs jours maintenant deux médias, Charlie Hebdo d'une part, Mediapart d'autre part. Dans son édito cette semaine, le directeur de Charlie Hebdo, Rhys, accuse celui de Mediapart, Edoui Plenel, de condamné à mort une deuxième fois sa rédaction, donc la rédaction de Charlie. Au départ, il y avait cette une de Charlie Hebdo qui montrait Edoui Plenel se bouchant les yeux et les oreilles sous ce titre « Affaire Ramadan, Mediapart révèle, nous ne savions pas » que la une de Charlie Hebdo faisait partie d'une campagne plus générale que l'actuelle direction de Charlie Hebdo épouse. Monsieur Valls et d'autres, une gauche égarée, donc c'est ce que dit Monsieur Plenel, une gauche égarée qui trouve n'importe quel prétexte pour en revenir à leur obsession, la guerre aux musulmans. Alors, édito de Rhys, en réaction cette fois-ci à ce que disait le directeur de Mediapart, qui l'accuse de condamner à mort une deuxième fois donc sa rédaction. Et l'ancien Premier ministre Manuel Valls, également mis en cause par Edoui Plenel, réagit ce matin à son tour sur BFM TV. Il accuse M. Plenel de complaisance, de complicité intellectuelle avec les terroristes et aussi d'avoir lancé un appel au meurtre contre lui-même, Manuel Valls, et contre Charlie Hebdo. Extrait cette intervention.
Ce n'est pas une petite polémique. Edoui Plenel n'est pas n'importe qui. C'est un grand journaliste. C'est un homme qui a matricé, qui a formé d'une certaine manière une génération de journalistes, ça n'est pas n'importe qui. Et donc, quand on reprend la phrase exacte d'Edoui Plenel, où il me cite on nous assimile à l'extrême droite, c'est très grave. C'est un appel au meurtre. Et on ne joue pas avec cela. Parce que, en désignant Charlie Hebdo, au-delà de le faire aussi pour ce qui me concerne, ou de le faire à l'égard de Caroline Fourest, accusée de mener une croisade. Ces mots sont importants, tous ces mots. Guerre contre les musulmans, croisade, ce sont exactement les mêmes mots, c'est la même sémantique utilisée par les islamistes, utilisée par la propagande de Daesh.
Voilà donc Manuel Valls avec Jean-Jacques Bourdin. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour Antoine.
Il y a un certain temps déjà que Manuel Valls avait théorisé sur la guerre des deux gauches qui était supposée irréconciliable. Le conflit devient maintenant tout à fait ouvert, on l'a entendu.
Oui, entre Mediapart et Charlie Hebdo, la tension s'est progressivement installée. Elle n'avait pourtant rien d'évident historiquement entre ces deux titres de presse qui revendiquent d'une certaine manière l'irrévérence face aux puissants, les uns par l'ironie, les autres par l'enquête. Mais tout change après les attentats de 2015. Dans les mois qui suivent, Edoui Plenel émet des sur Charlie Hebdo, une sorte de « oui mais », la haine ne peut avoir l'excuse de l'humour, dit-il, et la moquerie est condamnable si elle s'attaque à des gens et à des identités. Ses adversaires notent également qu'il a fait scène commune avec Tariq Ramadan lors d'une conférence à Brétigny-sur-Orge, en région parisienne, un intellectuel musulman qu'il juge à l'époque respectable et sans ambiguïté. L'affaire Ramadan, justement, celle des accusations de viol, ravive d'un coup ces tensions préexistantes. Charlie Hebdo s'en prend à l'aveuglement supposé du patron de Mediapart avec le dessin que vous évoquiez, une couverture fausse et dangereuse, s'indignent les journalistes du quotidien en ligne, une couverture qui insinue qu'Edoui Plenel aurait eu connaissance des agissements sexuels potentiellement délictueux de Tariq Ramadan. Le patron de Mediapart indique qu'il n'a croisé le théologien que deux fois dans sa vie. Il met aussi en cause, vous l'avez dit, Charlie Hebdo comme faisant partie d'une campagne plus générale, ce sont ces mots, celle d'une gauche, dit-il, alliée à une droite identitaire, voire une extrême droite identitaire, obsédée par la guerre aux musulmans. C'est à ce moment-là que les responsables politiques interviennent. La gauche se scinde, des protestations mutuelles, des pétitions en ligne, des éditos accusatoires et des débats de plateaux télévisés. Les camps pro-Charlie et pro-Mediapart s'étoffent de chaque côté au point de tourner aujourd'hui à cet affrontement violent.
Alors la tonalité de cette polémique, qu'est-ce que cela dit de l'état du débat démocratique en France ?
Effectivement, c'est un débat qui charrie bien plus que le simple jugement sur un dessin, une couverture en filigrane de manière plus ou moins assumée. Il y a le débat autour de la notion d'islamisme. Que revêt-elle ? Comment y faire face ? Quelle part du discours y consacrer ? Ce sont aussi ces questions qui sont présentes, d'où le champ lexical. Dans un camp, on dénonce l'obsession du camp d'en face pour ces questions. En retour, on évoque la naïveté ou la lâcheté. Ce débat traduit une controverse plus large, quasiment sociétale. Comment lutter contre les idées antidémocratiques tout en restant dans le cadre de la démocratie ? Cette question du ton et du fond du débat autour de ces questions, qui regroupe aussi la laïcité et le vivre ensemble, clive en fait à des degrés divers dans tous les partis politiques. À gauche donc, où Manuel Valls et Benoît Hamon pendant la primaire s'étaient fortement affrontés sur ces questions. à droite. Souvenez-vous également d'Alain Juppé qui était soupçonné d'être complaisant face à l'islamisme par ses adversaires fillonistes pour avoir parlé d'accommodement raisonnable. Il était surnommé Ali Juppé pendant la campagne des primaires. Et même à l'extrême gauche, où le nouveau parti anticapitaliste avait investi il y a des années une candidate voilée, tandis que le parti Frères Ennemis, Lutte Ouvrière, publiait plus récemment un texte rappelant la devise « ni Dieu ». Ni maître et critiquant le mot d'islamophobie. Voilà donc ce nouveau clivage plus violent, plus diffus et aussi plus éruptif.
Frédéric Saïs, merci pour cette analyse. On salue notre invitée, Catherine Morin-Desailly. Bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes sénatrice centriste. On va parler avec vous du projet de loi de l'audiovisuel dans la séquence interview, mais peut-être un mot quand même de ce climat politique aujourd'hui que vous observez comme tout le monde, mais peut-être de façon plus privilégiée, en tout cas de votre position. Comment est-ce que vous le percevez?
Je trouve que tout cela est très inquiétant. La violence du débat exprime d'abord pour moi finalement la traduction d'une anxiété collective par rapport à cette situation, ces menaces terroristes. Mais je vois que finalement les islamistes terroristes gagnent une forme de victoire quand on en arrive à voir que la communauté française se déchire, la communauté politique se déchire sur ces sujets. C'est bien une victoire de ceux qui cherchent à nous affaiblir, à nous diviser, à faire que notre société se fragmente. Moi, je pense que dans cette affaire Charlie Hebdo, ça a été excellemment rappelé. Voilà, la liberté d'expression, elle doit exister pour toutes les médias. On connaît le caractère subversif de Charlie Hebdo, donc je me permets de dire que je pense que le jugement d'Edwy Pienel était un peu inapproprié et que de toute façon, l'enjeu, c'est quand même bien à la fois de rappeler que nous sommes un État laïque qui respecte toutes les religions, dont la religion des musulmans, mais qu'il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf par rapport à cette islamisation, cette radicalisation qui est très subversive, qui est très souterraine, et il faut être extrêmement lucide dans la manière d'aborder le sujet.
Merci Catherine Morin-Desailly, on vous retrouve donc dans la séquence interview. Angela Merkel, Emmanuel Macron vont intervenir tout à l'heure à la tribune de la 23e conférence de l'ONU sur le climat, la COP23 qui est réunie jusqu'à la fin de la semaine à Bonn. Séquence politique qui se tient après plus d'une semaine de discussions très techniques qui ont été menées par les négociateurs des différents pays sur la mise en application de l'accord de Paris. Le président français, la chancelière allemande vont tenter de redonner quand même un élan plus politique, plus déterminé peut-être à ce combat climatique. Véronique Rebérotte, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on peut attendre donc des politiques au-delà des mots?
Alors les mots, ils seront importants car on est loin ici de l'euphorie, on va dire un petit peu exagérée, certes fin 2015, mais on est loin de cette euphorie de l'accord de Paris. Depuis, Donald Trump a été élu, les États-Unis ont souhaité donc sortir de la négociation climat. Les prévisions scientifiques sont de plus en plus alarmantes. Il sera bientôt trop tard, alerte 15 000 d'entre eux hein, cette semaine, et l'accord de Paris est déjà bien dépassé complètement dans ses ambitions. Il ne tient pas l'objectif de maintenir l'augmentation de la température de la planète à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Alors de cette négociation à Bonn, on attend pas de toute façon de grandes décisions spectaculaires. C'est un travail, vous l'avez dit, très technique pour donner corps à l'accord de Paris, tout un canevas de règles plutôt rébarbatives, il faut bien le dire, sur des mécanismes de transparence, que font concrètement les pays et quel est le résultat de leurs actions de lutte contre le réchauffement. Rappelons que l'accord de Paris n'est pas contraignant et les mauvais élèves ne sont pas sanctionnés. Se déroule aussi ici d'âpres discussions autour des pertes et dommages ou comment compenser auprès d'un pays les pertes économiques causées par des cyclones, l'élévation du niveau de la mer, etc. Tout cela est extrêmement complexe. Alors le couple franco-allemand, il a son rôle à jouer, car le climat se cherche des leaders aussi cohérents. Emmanuel Macron, pourquoi pas en VRP de l'accord de Paris. Angela Merkel, bien comme chancelière du climat, un statut écorné par le recours massif de l'Allemagne aux énergies fossiles, au charbon, en parallèle à sa sortie du nucléaire. Il faut quand même que le discours soit en adéquation avec les transitions énergétiques menées dans les pays. Or l'Allemagne, eh bien, n'atteindra pas ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre à cause justement du charbon, et la volte-face de la France sur le nucléaire montre qu'Emmanuel Macron bien ne croit pas aux énergies renouvelables. La France accuse d'ailleurs un sérieux retard dans le domaine. Alors Emmanuel Macron devrait en tout état de cause renvoyer dans son discours cet après-midi au sommet climat qu'il a lui-même lancé et qui sera consacré donc le 12 décembre à Paris au volet financier de l'accord de Paris, en lien ce rendez-vous avec l'ONU, les entreprises et aussi la Banque mondiale. La finance, eh bien, le nerf de la guerre de cette lutte contre le réchauffement, c'est le cœur même d'ailleurs de l'accord de Paris.
Véronique Rebérotte en direct de Bonn, merci. Airbus a enregistré hier soir la plus grande commande de son histoire, 430 avions moyens courriers de la famille des A320, vendus donc à une société américaine d'investissement pour près de 50 milliards de dollars, transaction annoncée à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Antoine.
Un mot d'abord de la commande elle-même, c'est un montant record dans un marché qui est en pleine expansion.
Oui, avec une croissance de 6% par an, l'aéronautique se porte très bien. Cette commande historique de 430 appareils moyens courriers de la famille A320 et A321neo, qui sont la nouvelle version des moyens courriers d'Airbus, qui permet de consommer 15% de carburant en moins. Ce qui explique en partie pourquoi ces clients sont des compagnies low-cost, américaines, mexicaines, chiliennes et hongroises. Ce contrat doit également permettre à Airbus de doubler son carnet de commandes moyens courriers et de passer à la fin de l'année devant son principal rival Boeing. Cette signature doit également faire oublier la déception d'Airbus qui avait passé une grosse commande au début de la semaine au salon de Dubaï de 15 milliards de dollars. En effet, Emirates a finalement opté pour le Boeing 787 Dreamliner plutôt que pour l'Airbus A350. Sur le marché des moyens des longs courriers.
Alors je dis qu'ils avaient été achetés, ces Airbus, par une société d'investissement. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas les compagnies aériennes elles-mêmes qui achètent les avions ?
Indigo Partners est un fonds d'investissement américain qui a des parts dans les quatre compagnies qui ont acheté ces avions spécialisées dans le leasing. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les compagnies n'achètent pas tous leurs avions en propre, car cela demande beaucoup d'argent. Un avion, en tout cas, c'est un peu comme un appartement. Il faut en moyenne, lorsqu'on l'achète en propre, 15 à 20 ans pour le rentabiliser. Or, les low-cost, qui ont besoin d'avions récents pour leur modèle économique, sont très friandes de leasing. Elles peuvent ainsi rester agiles et ne pas dépendre du marché. En cas de difficulté, elles peuvent même se débarrasser plus facilement de ces avions. Et aussi, elles doivent faire face aujourd'hui à la pression des actionnaires qui sont divers et variés et qui veulent des royalties de plus en plus rapidement. Or, un avion qui reste en hangar, c'est un avion qui ne rapporte pas d'argent.
Hakim Kasmi, merci. Le président libanais Michel Aoun accuse ce matin l'Arabie Saoudite de garder comme détenu le Premier ministre Saad Hariri, lequel a annoncé, on le sait, sa démission le 4 novembre dernier à Riyad. Rien ne justifie qu'il ne revienne pas après 12 jours, affirme-t-il. Nous le considérons comme en captivité et détenu, ce qui est contraire à la Convention de Vienne, affirme encore le président libanais. En tout cas, on apprend aussi que le ministre français Jean-Yves Le Drian est attendu ce soir en Arabie Saoudite et qu'il va rencontrer Saad Hariri, donc dans la capitale saoudienne. Un coup d'État au Zimbabwe avec l'armée qui prend le contrôle des rues de la capitale Harare dans le cadre d'une opération qui est destinée, selon l'armée, à éliminer les criminels de l'entourage du président Mugabe qui est en place depuis 80 maintenant, et des soldats, des véhicules blindés qui ont pris position donc pour barrer l'accès avec des véhicules au bureau du chef de l'État. Et on apprenait aussi que le président sud-africain Jacob Zuma annonce s'être entretenu avec le président Mugabe et qu'il affirme qu'il est bien assigné à résidence. Donc Valérie Crova, tout laisse penser qu'il s'agit bien d'un coup d'État.
Ça y ressemble fortement, Antoine, même si l'armée s'en défend. Information de la matinée, le vice-président Emmerson Mnangagwa, qui était parti en Afrique du Sud, est de retour au Zimbabwe. Il l'a dit dans un tweet ce matin dans lequel il appelle ses concitoyens au calme. C'est son éviction la semaine dernière qui a mis le feu aux poudres. Le vice-président a été pendant longtemps pressenti comme le dauphin de Robert Mugabe. Emmerson Mnangagwa était à la tête de la faction Lacoste, allusion à son surnom de crocodile pendant la guerre de libération contre les Britanniques. Il pensait se voir confier la succession du président Mugabe. Or, c'est une autre faction rivale, la génération 40, réunie autour de la première dame, Grace Mugabe, qui a poussé son mari, que l'on dit sénile, a destitué son vice-président. Entre-temps, le général Chiwenga, commandant en force des forces de défense du Zimbabwe, a pris clairement position en faveur du vice-président, d'autant plus qu'il devait lui aussi faire partie de la purge entreprise par le clan Mugabe. L'irruption de l'armée sur la scène politique du Zimbabwe est inédite. Elle intervient alors que le parti au pouvoir, la ZANU-PF, prépare la succession du dictateur Mugabe, qui doit briguer l'année prochaine un septième mandat. Mais vu son grand âge, il a 93 ans, sa femme, 52 ans, connue pour ses frasques, se verrait bien lui succéder. C'est l'avenir du Zimbabwe qui se joue actuellement. Un pays à terre économiquement après 37 ans de règne de Robert Mugabe. Un seul chiffre, Antoine, éloquent, près de 90% de la population active est au chômage.
Valérie Crova, merci beaucoup. Des révélations maintenant terribles sur un véritable marché aux esclaves des hommes vendus à l'encan en Libye, l'équivalent de 400 euros, 800 euros pour leur force de travail. Des faits documentés par un reportage diffusé par la chaîne américaine CNN. Des hommes, des migrants qui viennent d'Afrique noire, qui essayent de rejoindre l'Europe, qui sont donc la proie, Eric Biegala, de réseaux de passeurs qui cherchent évidemment à les escroquer jusqu'à la dernière limite, donc jusqu'à les vendre.
Oui, le reportage de CNN est à vrai dire glaçant. On y voit un des images filmées en caméra cachée qui montrent une vente aux enchères d'une douzaine d'hommes, chacun cédé pour l'équivalent de quelques centaines d'euros pour les travaux agricoles ou de construction, et ce dans un lieu non spécifié mais se trouvant manifestement à quelques dizaines de kilomètres de Tripoli. Tous sont des migrants, originaires du Niger, du Nigeria, du Ghana, du Mali. Un trafic humain qui est la dernière étape en fait d'une vaste entreprise d'extorsion. Les passeurs, en effet, des Libyens mais également des Somaliens, des Ghanéens, rançonnent les migrants à chaque étape de leur périple au travers de la Libye. En bout de course, avant de leur promettre un éventuel embarquement pour l'Europe, aujourd'hui de plus en plus rare, on exige d'eux des sommes toujours plus importantes qu'ils doivent convaincre leur famille d'envoyer aux passeurs. Et quand les dites familles ne peuvent plus payer, les passeurs vendent la force de travail de ces migrants une fois, deux fois. Certains racontent avoir été vendus 5 à 6 fois de suite et avoir ainsi dû travailler dans une ferme, sur un chantier ou ailleurs pendant des mois. Les passeurs libyens, visiblement, se sont reconvertis en marchands de force de travail, pour ne pas dire en marchands d'esclaves.
Eric Biegala, merci.
Midi 52 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Antoine Mercier avec l'avenir du service public de l'audiovisuel. Après la publication d'un document interne du ministère sur le projet gouvernemental, la ministre de la Culture Françoise Nyssen assure lors du débat budgétaire à l'Assemblée nationale qu'elle privilégiait coopération et synergie entre acteurs de l'audiovisuel public.
Oui, mais elle affirme aussi qu'elle n'écarte aucune piste pour sa réforme, donc y compris sans doute ce document de travail révélé hier. Sophie Delpont, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors évidemment, il y a un enjeu financier, il faut réduire les coûts. Mais il y a aussi une question de fond, c'est l'évolution des médias, la convergence de tous vers ce qu'on appelle maintenant le média global, le média numérique global.
Le travail porte sur des coopérations et des synergies entre acteurs du secteur, selon les mots de la ministre de la Culture hier à l'Assemblée nationale. Une réponse après la fuite d'un document de travail issu de son ministère dans le journal Le Monde, dévoilant l'état de la réflexion sur le regroupement de Radio France et de France Télévisions au sein d'une holding, projet que plusieurs syndicats qualifient déjà de retour à l'ORTF. Le mot « fusion » est d'ailleurs soigneusement évité par Françoise Nyssen, car elle sait à quel point ce dossier peut être explosif, puisque fusion rime souvent avec doublon et suppression de postes. Et il serait très périlleux de raviver les braises de la grève de 2015, la plus longue de l'histoire de Radio France. Et la réaction de la ministre de la Culture de vouloir porter plainte pour débusquer la taupe au sein de son équipe atteste de la crainte du gouvernement de voir ce projet remettre le feu aux poudres. Car réformer en profondeur le modèle pour créer un média global pose la question du travail des équipes, ces fameuses synergies, avec en toile de fond la place du numérique et la manière de faire travailler ensemble des journalistes radio, télé et web aux cultures multimédia très disparates. Qui doit prendre l'ascendant? Quelle gouvernance aussi? Et surtout la crainte de suppression de postes, comme le souligne la députée communiste Elsa Faucillon, alors que la députée La République En Marche, Frédéric Dumas, rapporteur pour avis de la Commission des affaires culturelles à l'Assemblée nationale, déclare de son côté que l'idée d'une société regroupant Radio France et France Télévisions serait, selon ses mots, une fausse bonne vieille idée à laquelle nous pensons qu'il est temps de tordre le cou définitivement.
Sophie Delpont, merci beaucoup. On revient donc vers notre invitée, Catherine Morin-Desailly, sénatrice UDI de Seine-Maritime, présidente dans la Commission de la Culture et de la Communication. J'aimerais vous demander ce que c'était, selon vous, qu'un média global, finalement. On dit qu'on converge vers un média global. Qu'est-ce que c'est exactement?
Un média global, c'est un média qui a pris acte de la mutation numérique, de l'émergence de nouveaux supports et de nouveaux usages par conséquent. C'est celui qui, à la fois, va conjuguer, mais c'est déjà le cas aujourd'hui, à la fois l'image, le texte, tout simplement.
Et c'est pas la fin de la radio ni de la télévision en
soi?
Non,
ce n'est pas la fin de la radio. D'ailleurs, moi je crois beaucoup à la radio, parce que 8 Français sur 10 écoutent la radio. Et donc c'est un média qui a encore de l'avenir devant lui. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous sommes absolument plus au temps de l'ORTF. La comparaison est tout à fait inappropriée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le paysage audiovisuel français est très... très enrichi par rapport au temps de l'ORTF. Il y a eu ces chaînes de la TNT, il y a eu l'émergence de plusieurs groupes. Donc on n'est pas du tout dans le cas de figure. Et en plus, on est dans un contexte aussi international qui a vu l'émergence de nouveaux acteurs extra-européens qui sont rentrés dans la chaîne de valeur et de distribution et d'accès à nos propres chaînes de télévision et de radio. On n'est pas du tout dans le même contexte.
Sophie Delpont.
Bonjour Catherine Morin-Desailly. Donc par rapport à ce futur média, deux questions. Comment faire d'éviter en fait que des fusions puissent s'opérer entre les services avec derrière peut-être des suppressions de postes? Et deuxième question, comment on finance?
Je crois qu'il faut prendre un peu plus de hauteur hein, et se dire, si on est très attaché dans le cadre d'un paysage très diversifié, où il y a une surabondance de l'information, on peut questionner d'ailleurs l'information, il y a aussi tout ce qui déferle sur les réseaux sociaux. Si on est attaché aux missions du service public, moi je le suis profondément, qui a valeur éducative, valeur d'information, de culture citoyenne, qui porte des valeurs, il faut se poser les bonnes questions. Comment rendre efficace, lisible et pérenne un audiovisuel public français? Nous avons beaucoup réfléchi à la Commission de la Culture depuis des années sur ce sujet, confronté à cette mutation numérique qui est un véritable tsunami. Et nous pensons qu'il faut une réforme systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit à la fois réfléchir à plusieurs aspects. Premièrement, la question, en effet, de la structure. Il y a confusion aujourd'hui entre fusion, holding, seule société. Nous, on n'a jamais parlé de fusion. On a parlé d'une holding qui permettrait de rapprocher les entreprises de l'audiovisuel public, de manière à avoir une vision stratégique et panoramique, ne serait-ce que de la distribution de la contribution à l'audiovisuel public, qu'on appelait redevance, pour vérifier par exemple si on a besoin de mettre un peu plus sur l'audiovisuel extérieur parce qu'on considère que c'est un enjeu majeur, et ben voilà, à partir de la holding, on peut le faire.
Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot systémique?
Systémique, c'est une réforme globale. Donc ça va être la réforme de structure, ça va être la réforme de la gouvernance. Aujourd'hui, nous estimons par exemple que la nomination des présidents des entreprises par le CSA n'a pas plus réussi finalement que celle de 2009 par le président de la République. Nous avons toujours prôné, nous, une nomination par un conseil d'administration renouvelé avec une clarification des tutelles. J'ai pas le temps de développer.
C'est vous qui avez rédigé finalement la note qui a fuité. Vous nous dites exactement le contenu.
Non, pas du tout, mais je vois qu'on inspire beaucoup de monde en ce moment. Ensuite, troisième réforme très importante, qui est concomitante, c'est celle du mode de financement. C'est notamment la réforme de la contribution à du VL public qui devient urgente. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'histoire de la publicité et de la fameuse taxe sur les opérateurs qui est censée compenser la suppression de la publicité. Nous plaidons pour une réforme profonde de la contribution à l'audiovisuel public, un peu à l'allemande, contribution forfaitaire universelle, d'abord qui sous-tend un principe d'équité, de neutralité technologique et d'équité entre tous les concitoyens et qui donc du coup doit être une vraie réponse, parce que là on voit bien que plus personne ne regarde la télévision ou presque dans son salon.
Et tous donc, les possesseurs d'écran en fait contribueraient, le numérique...
C'est le principe d'une contribution par foyer, c'est pas le support qui compte, c'est le principe de la réception, donc c'est juste, tout simplement.
Toutes les personnes qui utilisent Internet. Voilà.
Donc je pense qu'il faut réfléchir de façon globale. Il faut aussi porter beaucoup d'attention à la façon dont l'information évolue, le mode de perception, de réception, d'appropriation de l'information, les métiers aussi de l'information, que les journalistes réfléchissent aussi ensemble, comment tous nos métiers sont profondément bouleversés, quelle que soit d'ailleurs l'activité humaine aujourd'hui. Il y a un vrai sujet, un vrai travail, mais il ne peut se faire que s'il y a une vision, s'il y a un projet, s'il y a une réaffirmation aussi des valeurs que porte l'audiovisuel public. Et ça ne peut pas passer que par une seule vision budgétaire d'économie, vous l'avez bien compris.
Vous êtes quand même en phase avec le gouvernement, apparemment, sur sa réforme, telle qu'il l'engage.
J'ai pas dit ça.
Ah bon, je sais pas.
J'ai pas dit ça, puisque c'est nous qui... Voilà, on a énoncé un certain nombre de propositions. Moi, je note qu'il y a des propositions qui sont reprises sous forme d'analyse, mais ce qui est très important, encore une fois, c'est de ne pas voir la chose que sous les seules perspectives budgétaires. Il faut avoir un projet, une vision pour l'audiovisuel public.
Merci beaucoup Catherine Morin-Desailly, sénatrice UDI de Seine-Maritime, d'être venue dans ce studio. La météo gris et humide au nord, plus ensoleillé au sud, température 6 à 20 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, prochain journal 18h avec Aurélie Kiffer.